Vous avez sans doute gardé en mémoire ce que Bonaparte annonçait aux Français le 8 mars 1800, quand il leur disait « Vous allez combattre, et je ne combattrai jamais, que pour le repos du monde. » Ce repos du monde, nous allons commencer à l'apprécier. D'abord, il faut bien se rendre compte de ceci, que Bonaparte aime la guerre. Il l'aime, il le dira à Roederer, il dit « Je suis fait pour ça, c'est mon habitude, c'est mon existence. » D'autre part, il en a besoin, à deux points de vue. Il en a besoin pour son prestige, qu'il faut tout le temps redorer, et il en a aussi besoin pour des raisons d'argent, comme nous le verrons avec précision. Je voudrais que vous vous rendiez bien compte de ce qui se passe dans cette affaire de politique extérieure, quand nous avons Bonaparte en face de nous. La Révolution, elle avait fait en 90 un pas extraordinaire grâce à Robespierre, au mois de mai 90. C'était Robespierre qui avait obtenu des constituants cette déclaration étonnante. La France s'engage à renoncer désormais à toute entreprise de conquête. Je dis bien étonnante, il faut prendre conscience de ça. Jusqu'à présent, jusqu'à cette proposition de Robespierre, il est entendu que c'était une jungle internationale, que les États se dévoraient, que les petits étaient mangés par les gros. Et tout à coup, Robespierre essayait de faire faire ce pas en avant énorme à la civilisation. La France donnait l'exemple d'une nation qui dit « c'est fini, moi je ne ferai plus de guerre de conquête ». C'était les Girondins qui avaient renversé tout ça. Les Girondins avaient décidé qu'il fallait faire des guerres de conquête parce que, raison d'argent, parce qu'on avait épuisé les trésors de l'Église qu'on lui avait pris, parce que les assignats n'étaient plus assez couverts, parce que c'était pas la classe bourgeoise au pouvoir qui allait faire les frais de la Révolution, certainement pas, elle avait fait pour ne pas payer. Alors, par conséquent, il fallait trouver de l'argent à l'étranger. D'où la politique monstrueuse, la politique de reniement que les Girondins avaient imposée à la Révolution française et à la République. Et bien, cette politique monstrueuse de conquête et de reniement, c'est la politique aggravée que Napoléon a choisi. Détail très curieux, quand j'ai commencé mes recherches là-dessus, j'étais tombé presque par hasard sur un article de la Décade philosophique du 1er novembre 1999. Qu'est-ce que c'est la Décade philosophique? C'était le journal de l'Institut pratiquement, journal de ce qu'il appellera lui-même les idéologues. Comme l'Institut, vous vous rappelez, préparait la candidature de Bonaparte à la toute-puissance, le 1er novembre 1999, et le coup d'État va arriver dans quelques jours. Le 1er novembre 1999, cette Décade philosophique, usant de tous les arguments possibles contre le directoire qu'il fallait discréditer pour mettre à la place Bonaparte, la Décade philosophique avait osé dire « la politique extérieure du directoire nous condamne à la perpétuité de la guerre ». Mais cette politique extérieure du directoire, c'était pour une part Bonaparte qui lui avait imposé. Par conséquent, ce que cette Décade philosophique dénonçait chez le directoire, c'était la politique même que Napoléon utilisait à l'extérieur, et aggravé, comme je viens de vous le dire. Alors, où en sommes-nous à ce moment-là, au début de sa prise du pouvoir? Nous en sommes devant une Autriche fatiguée. L'Autriche, elle a tout de même besoin de souffler, elle s'est fait battre à plusieurs reprises, elle va finir par traiter. Elle traite à Lunéville en février 1801, et à Lunéville, elle accepte en tome les conditions de Campo Formio. Ça ne lui a rien servi de faire sa tentative de défense, de résistance. Elle gagne la Vénétie, c'est entendu, on lui avait donné cette Vénétie qui n'appartenait à personne, qui était un État indépendant, et qu'on avait volé pour le donner comme compensation à l'Autriche, elle stoppe. Elle stoppe avec l'idée simplement qu'elle va reprendre le souffle. La Russie était contre nous, contre les Français depuis 1998, quand elle avait vu l'expédition d'Égypte qui semblait menacer son flanc sud. La Russie avait reçu des échecs militaires graves, grâce à Masséna en particulier, en 1998-99, enfin en 1999 veux-je dire, et maintenant, elle quittait la coalition sans avoir encore signé de paix avec la France. C'était Paul Ier qui était le tsar. Et Paul Ier, pour des raisons trop longues expliquées ici, tournait contre l'Angleterre. Ça va lui coûter son trône. Paul Ier va être assassiné par une conjuration de boyards. Vous savez, on dit toujours les boyards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les gros négociants, tout simplement. Les boyards, c'est les notables de la Russie, enfin ceux qui tiennent la banque et le commerce. Et bien, les notables, voyant que Paul Ier faisaient une demi-rupture avec l'Angleterre, et comme leur trafic avec l'Angleterre, c'était ça qui les enrichissait, ils vont tuer Paul Ier avec la sourde complicité de son propre fils, qui va devenir le tsar Alexandre. Enfin, à ce moment-là, 1801, du côté de l'Autriche, la France n'a rien à craindre. Et du côté de l'Angleterre, nous assistons à quelque chose d'assez curieux, c'est que les dirigeants de l'Angleterre, qui sont des commerçants avant tout, s'étaient dit, après tout, il faut être réaliste. C'est entendu, les Français sont à Anvers, c'est très dangereux, c'est Bonaparte lui-même qui disait « Anvers, c'est comme un pistolet braqué au cœur de l'Angleterre ». Mais enfin, si on pouvait s'arranger avec lui, si on pouvait faire un bon traité de commerce, même en acceptant que les Français soient à Anvers, il y aurait peut-être moyen de créer une coexistence pacifique pendant un certain nombre d'années. Monsieur Georges Lefebvre, dans son très bon livre de 65 sur Napoléon, a une formule que je vais vous répéter ici parce que je la trouve excellente. Ça va être cette paix ça va être une expérience d'homme d'affaires. C'est exactement ça. Les hommes d'affaires britanniques qui sont au pouvoir se disent, après tout, on va voir. En 1786, la France avait fait avec l'Angleterre un traité de commerce qui était avantageux, peut-être en effet plus pour l'Angleterre que pour la France. Les banquiers et négociants anglais se disent, peut-être même qu'avec Bonaparte, on peut réussir. Si on obtient un bon traité de commerce, c'est pas la peine de continuer à nous battre. C'est pourquoi, en mars 1802, du reste, avec la poussée derrière des Tories qui font contre les Whigs au pouvoir, en mars 1802, ça y est, paix d'Amiens. C'est donc une accalmie, une assez sérieuse accalmie sur le continent, mais il y a toutes les chances pour que ça ne dure pas. Et Bonaparte le sait d'avance. Il y a deux raisons pour savoir que ça ne va pas durer. Une première raison qui est d'ordre économique. Les Anglais, et ils ne l'ignorent pas, traitent afin d'avoir un bon traité de commerce. Or, de qui est le délégué Bonaparte? Je vous l'ai dit 20 fois, il est le délégué des notables, c'est-à-dire des commerçants, des négociants en particulier. Eh bien, les notables français, les négociants français, ne veulent à aucun prix d'un traité de commerce comme celui de 86 qui leur avait porté préjudice. Ils ont mis Bonaparte là où il est pour faire des bénéfices. Alors, ce qu'ils veulent, c'est une politique économique ultra-protectionniste. Et si jamais Bonaparte avait eu l'idée, mais il ne l'avait pas, de faire une politique de libre-échange, il aurait perdu sa clientèle de notables. Donc il sait d'avance que si les Anglais n'ont fait la paix que pour avoir un bon traité de commerce, ils ne l'auront pas. Et puis deuxièmement, il a une phrase cynique, ces phrases si intéressantes de lui, où de temps en temps on voit le fond de sa pensée, une phrase cynique à Roederer où il lui dit, puis vous savez, entre nous, nous possédons trop de choses. La France est devenue trop grosse, ce qui signifie que l'Europe ne le tolérera pas. Eh bien cet homme qui vient de dire, nous possédons trop de choses, vous allez voir avec moi comment il va se comporter après les deux paix qu'il a signées, la paix de Lunéville et la paix d'Amiens. Il possède trop de choses, et bien il va en avoir encore plus. La paix de Lunéville était à peine signée que le voilà qui impose de force à Naples la présence de 3 garnisons françaises. Le royaume de Naples, c'était une partie indépendante, sud, comme vous savez, méridionale, de l'Italie. Eh bien, à ce royaume de Naples, sous menace militaire, c'est toujours sa politique, il avance son revolver, obéit ou je tire. Alors, sous menace, sous contrainte, enfin, 3 ports sur l'Adriatique, 3 ports de Naples vont devoir accepter des garnisons françaises. Très peu de temps après, il va s'emparer du Piémont. Jusqu'à présent, il y avait la République cisalpine, vous savez, la République cisalpine qu'il avait créée comme une espèce d'État satellite, mais on n'avait pas touché au Piémont. Eh bien, le Piémont devient brusquement, 3 mois après le traité de Lunéville, une division militaire française. On n'ose pas encore parler d'annexion. Simplement, militairement, le Piémont sera une division militaire française. Cette fiction ne va pas durer longtemps. En septembre 1802, le Piémont est annexé. En mai 1802, l'île d'Elbe a été prise par Napoléon. Et là, il y a un petit détail assez amusant que je tiens à vous apporter. Lorsque l'île d'Elbe a été annexée, pas grand-chose, mais enfin, cette île d'Elbe, c'était quelque chose de plus pour la France. Il y avait des mines de fer. Napoléon espérait en tirer quelques revenus. Il charge Berthier. Berthier, c'est un homme à tout faire, vous savez. D'organiser un voyage de remerciement à Paris des principaux notables de l'île d'Elbe. Et voici la phrase qu'il avait employée dans ses instructions à Berthier. Je les autorise à m'adresser un petit discours où ils parleront du plaisir qu'ils ont d'être annexés à la France. Vous leur ferez remettre 300 francs à chacun. Pour en rester encore à l'Italie, voilà Cisalpine qui va se transformer. C'est en janvier 1802. Jusqu'à présent, la Cisalpine était en apparence un État indépendant, bien entendu, il était sous la domination de la France. Mais voilà qu'en janvier 1802, on va transformer la Cisalpine en une république italienne. Faites attention aux mots, italienne. Tout à coup, l'Italie du Nord devient une république italienne. C'est une menace très précise. Ça veut dire cette Italie, cette république italienne, qui ne comprend jusqu'à présent que le nord de la péninsule, attendez-vous à ce qu'elle déborde, à ce qu'elle descende, et que bientôt ce soit toute la péninsule. Sous qui? Sous moi, Bonaparte. Car c'est lui qui vient de se faire nommer protecteur, enfin président plus exactement, président de la république italienne à Lyon. Il a amené les Italiens à Lyon pour indiquer qu'il les tenait sous la main, et c'est à Lyon qu'on a décidé en janvier 1802 qu'il était le président de la république italienne. J'ajoute comme preuve que Italie ou France, c'est la même chose à ce moment-là pour lui. Quand il s'agira de déléguer un ambassadeur auprès du pape, il va prendre son oncle qui n'a d'ailleurs que 6 ans de plus que lui, le cardinal Fesch. Et le cardinal Fesch sera ambassadeur à la fois de la France et de la République italienne à Rome. Alors voilà donc pour l'Italie. Hein. On a mis 3 garnisons françaises dans des ports napolitains, on s'est emparé du Piémont, on s'est emparé de l'île. Et quant au pape, on lui a déjà pris un morceau, mais il y en viendra d'autres. La Suisse, maintenant, qui nous intéresse assez particulièrement. La Suisse, la France l'a envahie à partir de 1998. Vous savez qu'on s'était emparé des 30 millions du trésor de Berne pour financer l'expédition d'Égypte. On s'était battu en Suisse, puisque les Austro-Russes y étaient. Il y avait eu les victoires de Masséna, que je vous rappelais il y a un instant, en 1999. Et naturellement, les troupes françaises n'avaient pas évacué. Et Bonaparte estimait que cette Suisse devait lui appartenir. Militairement, stratégiquement, c'était important. D'autre part, il tenait à ce qu'il y ait là, comme il y avait des ressources, à ce qu'il y ait là un pays qui dépendit de lui. Alors il avait imposé, vraiment imposé, aux Suisses ce qu'on a appelé l'acte de la Malmaison en avril 1801. Au mois d'octobre 1801, de son chef, il renvoie la diète, c'est-à-dire la réunion générale que les Suisses avaient constituée. Il l'a fait dissoudre par un général qui s'appelle le général Schuin. Et si vous voulez connaître le ton des instructions qu'il donne à son ministre des Relations extérieures, c'est-à-dire à Talleyrand, écoutez ce qu'il lui dit. Il n'y a pas de milieu entre une Suisse amie de la France, c'est-à-dire docile à la France, et pas de Suisse du tout. Il faut, c'est un ordre, dit-il, il faut que ma médiation soit acceptée. Et s'il n'obtempère pas ces Suisses, eh bien, c'en est fait de la Suisse. Voilà ce qu'il écrit le 23 septembre 1802 à Talleyrand. Alors, vous pensez bien que les délégués suisses vont arriver chapeau bas aux Tuileries pour recevoir les ordres du fameux médiateur. Eh bien, le médiateur, qu'est-ce qu'il va demander ? Il va demander à cette malheureuse Suisse une alliance. Elle sera militairement alliée à la France. D'autre part, il lui a déjà pris un petit morceau, le Valais. Il a constitué le Valais en une république indépendante. République indépendante, où il veut envoyer Chateaubriand comme ministre, et Chateaubriand prendra ça très mal. Qu'est-ce que c'est que cette république de marmotte, disait Chateaubriand. Ça ne durera pas naturellement, c'est une indépendance fictive, puisque assez rapidement, le Valais sera annexé. D'autre part, les Suisses seront obligés de mettre 16 000 hommes en permanence à la disposition de Bonaparte pour ses entreprises militaires. Il a fait une proclamation, je tiens à vous lire, « Habitants de l'Helvétie, renaissez à l'espérance. Je ne puis rester insensible aux maux qui vous accablent. » C'est une question de cœur, quoi. « La médiation dont je me charge est un bienfait de la Providence. » Mais j'en ai pas fini avec la Suisse, parce qu'il y a un autre détail complémentaire qui est très important pour la politique intérieure de Bonaparte, et que voici à Röderer, le 30 décembre 1802, c'est-à-dire très peu de temps avant l'acte de médiation, qui est du 19 février 1803. Il va expliquer à voix basse à Röderer comment il s'y prend en Suisse. Il s'agit, lui dit, nous avons ça, je vous le lis, hein, sic, dans les mémoires de Röderer, il s'agit d'attribuer aux masses l'apparence du pouvoir, mais d'en réserver la réalité aux patriciens, c'est-à-dire aux gros possédants, que j'oblige ainsi à se grouper autour de moi pour qu'il ait ce pouvoir social réel. C'est le système que j'ai employé en France, et vous voyez bien qu'il a réussi. Alors déjà, vous voyez ce qu'il a fait en Italie, vous voyez ce qu'il fait en Suisse, l'Allemagne maintenant. L'Allemagne, puisque les Autrichiens, avec le traité de Lunéville, reprenant Campo Formio, ont concédé que la rive gauche du Rhin serait aux Français. En échange, ils avaient donc eu la Vénétie. Il faut des compensations, parce que dans cette rive gauche du Rhin, il y avait des tas de gens qui n'ont maintenant plus de possibilités, plus de pouvoir. Et il faut qu'on s'arrange pour trouver des compensations à ces princes qui ont été dépossédés. Alors ces compensations, Bonaparte leur indique comment il faut faire. Il leur dit, vous avez là un certain nombre de principautés ecclésiastiques, il y avait des princes évêques. Eh bien, la République française, dont il est le représentant, drôle de République, mais on fait ça, la République française vous donne l'exemple, vous n'avez qu'à saisir les biens ecclésiastiques. Ces princes évêques, enfin, ils n'ont aucune raison d'être princes en même temps qu'évêques. Ça représente 21 millions de florins de rente annuelle. Alors c'est très intéressant à vous partager. D'autre part, il y a des villes libres. Et le mot libre est un mot qui exaspère toujours Bonaparte. Il y avait 51 villes libres. Ben, il en restera 6, après qu'on aura arrangé les choses dans ce qui s'appellera le recès de Ratisbonne, où Talleyrand aura fait ses trafics habituels. Il paraît qu'il en a tiré environ 10 à 12 millions personnellement. Mais pour bien comprendre la signification de ce qui se passe en Allemagne, il faut un tout petit détail qui nous a été apporté par un livre dont je m'étonne qu'on n'en parle pas davantage, car il est extraordinairement révélateur. C'est un livre de 1913 et qui porte un titre curieux, Napoléon sténographié. C'est un nommé Marquiset qui a publié ce livre. Ce sont des notes que ce monsieur Marquiset avait retrouvées, notes prises pendant les séances du Conseil d'État, par un Conseiller d'État dont Marquiset n'est pas arrivé à définir l'identité. Ça serait probablement, enfin non, sans, mais sans certitude, ce serait probablement le banquier Le Couteux, qui était un des complices de Brumaire. Eh bien, ces notes ont été prises avec une très grande rapidité, avec une espèce de sténographie, si vous voulez, par le Couteux, et on entend Bonaparte qui parle dans le Conseil d'État. Et en 1804, dans une des séances du Conseil d'État, quand on est en train de préparer l'Empire, Bonaparte discute avec les gens du Conseil d'État pour savoir quel emblème on va prendre pour l'Empire. Il sera question d'un éléphant, il sera question d'un aigle, vous savez que ça, finalement c'est l'aigle qu'on aura choisi, mais il a été question à un moment d'un lion. Et Bonaparte, parlant de l'emblème qu'il voit avec un lion, le décrit comme suit. Un lion étendu sur la carte de la France, la patte à demi levée, est prête à dépasser le Rhin. Avec cette légende, Malheur à qui me cherche, prêt à dépasser le Rhin. Eh bien, le recès de Ratisbonne de 1803, c'est Napoléon qui est en train de préparer son remue-ménage de l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire sur la rive droite, parce qu'il a bien l'intention de sauter le Rhin. Puis vous aurez remarqué, malheur à qui me cherche, le chercher, ça veut dire essayer de s'opposer comme on peut à ces tentatives d'expansion. Ce lion, cette politique de lion, je me demande si on la définit bien avec l'image du lion, je préférerais pieuvre, pieuvre avec des tentacules. Car tout ce que nous allons voir dans cette histoire napoléonienne, ce sont les tentacules non pas certes de la France, les tentacules de Napoléon, qui, telle une pieuvre, a essayé de prendre, autour de lui. Une pieuvre, je dirais, compliquée d'un vampire. Vous l'avez déjà vu quand il était dans l'Italie du Nord, ce qu'il faisait, ramasser millions sur millions. C'était un artiste, vous voyez, comme dit M. Madeleine. Il s'occupait de tableaux aussi, de statues, il les prenait. Eh bien maintenant, entre les traités de Lunéville, d'Amiens, et ce qui va se passer en 1803 et que je vais vous raconter, le vampire travaille. Le vampire a obtenu d'abord de la fameuse petite république italienne, dont il est le patron, une fourniture de 33 millions par an. Il faut qu'il s'arrange. Enfin, on fera des prélèvements, on fera des impôts, mais la France veut, Napoléon veut, 33 millions par an. D'autre part, il y a le Portugal et l'Espagne, qui sont des pays riches. Alors il va organiser, Bonaparte, il va organiser une espèce de rupture apparente entre l'Espagne et le Portugal. Il a dans la main Godoy. Godoy, c'est le grand homme de l'Espagne, parce que c'est l'amant de la reine, et que le pauvre roi Charles IV obéit à ce que veut Godoy, à ce que désire Godoy. Alors Bonaparte s'arrange avec Godoy pour lui dire, vous allez menacer d'une guerre le Portugal, et comme la guerre n'éclatera pas, on dira aux Portugais, si vous voulez qu'on ne vous attaque pas et que la France n'intervienne pas, versez 20 millions. Ça y est, le Portugal va verser 20 millions. L'Espagne même. Bonaparte vient d'apprendre qu'il y a des galions d'or qui arrivent d'une manière assez régulière en Espagne, qui gagnent beaucoup d'argent avec ses colonies d'Amérique latine. Dès qu'il sait qu'il y a une arrivée massive de galions d'or, il demande à Godoy de signer un papier par quoi la France touchera par mois, 6 millions. Ça fait, si je ne me trompe pas, 72-72 millions par an, multiplié par 4 aujourd'hui, hein, pour avoir le chiffre de francs actuel. Et si vous comptez en dollars, ça fait du 72 millions de dollars par an. Là, vous voyez que la population travaille bien aussi du côté de la République batave. On avait établi ça en Hollande, vous savez, une fausse république. Il y aura un corps expéditionnaire français en permanence et qui sera là à la charge de la Hollande. De telle manière que ça fera des économies à Napoléon, puisqu'il n'aura pas besoin d'entretenir ses troupes, elles seront entretenues aux frais de la Hollande. Tout ça, hein, tout ce que je vous raconte, les tentacules de la pieuvre et le travail du vampire, tout ça s'accomplit sous le signe de ce traité de Lunéville, qui, dans un de ses articles, garantissait expressément l'indépendance des républiques cisalpines, helvétiques et bataves. Alors vous comprenez bien qu'on ne peut que donner raison à une certaine note de la chancellerie autrichienne, et que voici. Le repos de l'Europe, je suis content qu'ils aient écrit ça, parce que ça correspond comme un écho à ce qu'avait écrit Bonaparte en 1800. Le repos de l'Europe est troublé. Quand une puissance attribue des droits d'occupation ou de protection qui ne sont avoués par aucun traité, et quand elle emploie la force et la crainte pour dicter ses lois à ses voisins, et quand elle reparle des droits de la victoire après que la paix les a éteints. Ce qui n'empêche pas Napoléon, avec la candeur de l'innocence ou du cynisme, de faire le 13 mai 1804 cette déclaration, toute l'Europe peut me rendre cette justice que je ne me mêle jamais des affaires intérieures d'aucun État. Avec un petit commentaire souriant que nous devons aux mémoires de Lucien, je les connais les Français, dit-il à son frère Lucien, je les connais les Français. Ils adorent avoir à leur tête un prince qui les mène de temps en temps voler à l'étranger. Enfin, en principe, c'est la paix, hein. Et les historiens nous disent aujourd'hui, Bonaparte a inauguré son règne par 2 années de paix, paix de Lunéville, paix d'Amiens, et jusqu'en 1803, c'est la paix. C'est la paix à condition de ne compter pour rien les expéditions coloniales. Parce qu'en 1802, il y a une expédition coloniale, c'est l'expédition de Saint-Domingue, dont je voudrais vous parler en quelques minutes. Ce n'est pas la constituante, certes, ni la législative, qui avait libéré les esclaves noirs. Il avait fallu attendre de nouveau Robespierre. C'est lui, en avril 1794, qui avait dit « la République ne peut pas tolérer dans ses colonies, dans ses possessions, des esclaves ». Ça avait été une indignité de sa part. Il y avait le lobby colonial qui était fou furieux contre lui. Enfin, ça y était. Tout de même, les esclaves étaient libérés. Le fait est que la libération avait été réelle à Saint-Domingue et qu'il s'était établi là une république, la première république noire indépendante, avec Toussaint Louverture. Toussaint Louverture avait collaboré aux Français pour chasser les Anglais de Saint-Domingue et les Espagnols. C'était maintenant une république indépendante, mais Toussaint Louverture désirait entretenir les liens les plus étroits avec la France, et en particulier les liens économiques. Pas question pas question pour Bonaparte d'accepter qu'il y ait une république noire indépendante. Il a à côté de lui le fameux lobby colonial qui est maintenant repris du poil de la bête, et on peut dire qu'à la tête du lobby colonial, il y a sa femme, enfin la créole Joséphine. Il y a ces tiers qui nous racontent, c'est ce tiers seul qui le dit, mais c'est bien intéressant dans son histoire du consulat et de l'Empire. Il y a des conseillers autour de Bonaparte qui lui disent « Vous désirez faire rentrer les émigrés ?» Il voulait, hein, pour qu'il ait le plus possible d'ex-royalistes qui se rallient. Ces émigrés, ils vont rentrer, ils vont demander des indemnités parce qu'on leur a pris une partie de leurs biens. Alors Thiers dit « Nombreux étaient ceux qui conseillaient à Bonaparte d'indemniser des émigrés en rétablissant l'esclavage, car un grand nombre d'entre eux avaient eu des possessions à Saint-Domingue. » Deuxième raison d'intervenir contre Saint-Domingue. Troisième raison, les armateurs. Ça, c'est dans Molien, dans les mémoires de Molien. Et il a même une phrase bien intéressante, Molien, que je vois ici. Il écrit dans un style orné, vous savez, ce monsieur. Et il dit, les armateurs avaient envie de reprendre le commerce avec Saint-Domingue à l'aide d'une foule d'objets. Voilà le style Molien. Une foule d'objets que la délicatesse de notre civilisation repousse, mais qui font la joie des pays moins avancés, c'est-à-dire une pacotille sans valeur qu'on va échanger à prix d'or, mais à condition que les ex-esclaves se laissent faire. Il a une autre raison encore, Bonaparte, de lancer son expédition militaire de Saint-Domingue, c'est l'affaire de Rennes, dont je vous ai parlé la dernière fois. Un commencement d'insurrection militaire à Rennes. Il n'y a plus de guerre maintenant, alors les soldats, enfin les officiers dangereux, ne sont plus en Allemagne, ils sont rentrés en France. Ce serait très bon d'envoyer des fortes têtes se faire descendre à Saint-Domingue, peut-être aussi par le climat, enfin ne pas les avoir là. Le 83e de ligne en particulier, qui s'était non pas insurgé, mais qui suivait son colonel Simon, sous les ordres de Bernadotte, et c'est au 83e de ligne qu'avait été lancé l'appel à toutes les armées de France, le 83e, il ira à Saint-Domingue et il n'en reviendra pas. Dernière raison, il a l'esprit de famille, vous savez, le caïd de Bonaparte, enfin, le sens de la solidarité tribale. Alors Pauline, sa petite sœur Pauline, s'est mariée avec Leclerc, il lui a trouvé que c'était un mariage du reste un peu insuffisant, on va lui donner une sorte de principauté coloniale. On va reconquérir cette île de Saint-Domingue pour permettre à ces Noirs d'être libres, c'est inconvenant, et puis Pauline aura là-bas beaucoup d'argent. Alors vous savez comment ça va se produire, sournoisement, on envoie un corps expéditionnaire a une proclamation pour expliquer aux Noirs qu'il ne faut pas s'inquiéter. Le 8 novembre 1801, la proclamation la voici, que craindriez-vous des républicains que nous sommes? Si l'on vous dit que nos forces sont destinées à vous ravir votre liberté, répondez, la République française ne souffrira pas qu'elle nous soit enlevée. Il a compris, tout ça, l'ouverture, il sait très bien ce qui se passe. Par conséquent, il va s'opposer militairement au débarquement des 30 000 Français qui arrivent là. Il sera battu, il y aura un armistice. On lui fera le coup que Bonaparte a fait à Frotté, le Vendéen, vous vous rappelez, Frotté, ce Vendéen qui avait eu l'imprudence de croire à la sincérité de Bonaparte qui lui avait donné un sauf-conduit, et dès qu'il est entré dans les lignes françaises, on l'a tué. Eh bien, de même, le général Brunet écrit le 7 juin 1802 à Toussaint Louverture, « Venez chez moi, venez me voir, vous y trouverez la franchise d'un soldat qui ne fait d'autres vœux que pour la prospérité de la colonie et pour votre bonheur personnel. » Et dès que Toussaint Louverture sera chez le général Brunet, on sautera sur lui, on le garrottera, on le jette sur un bateau, on l'envoie en France et il mourra très rapidement au bout de quelques mois au fort de Joux. Bien entendu, l'esclavage et la traite des Noirs ont été rétablis. En date du 27 mai 1802, Bonaparte a rétabli l'esclavage. Et quant à l'expédition de Saint-Domingue, elle tournera très mal parce qu'il faudra l'abandonner, il faudra se retirer. La fièvre jaune avait détruit tout le monde. Enfin, 37 000 soldats français y seront morts, dont Leclerc. Et cette colonie de Saint-Domingue sera perdue définitivement pour la France. L'Angleterre maintenant, est-ce qu'on va se battre ou est-ce qu'on ne va pas se battre? Eh bien, les Anglais n'y tiennent pas. Ils n'y tiennent pas malgré le fait qu'ils sont très déçus du point de vue économique. Mais nous avons là-dessus des renseignements très sérieux depuis quelques années. Le livre de M. François Crouzet sur l'économie britannique et le blocus continental. C'est un livre exhaustif, vous savez, c'est le grand livre qui nous apprend ce qui s'est passé en Angleterre économiquement du temps de Napoléon. Eh bien, l'année 1802 a été marquée en Angleterre par une expansion économique sans précédent. Donc, bien qu'il n'ait pas eu du côté de la France le traité de commerce qu'il désirait, les Anglais ne souhaitaient pas la guerre. Mais cette guerre, Bonaparte la souhaite. Et comme il ne veut pas se mettre en position personnelle d'agresseur, comme il veut obtenir qu'il soit attaqué pour pouvoir dire à son peuple « Nous nous défendons », qu'est-ce qu'il va faire? Il va procéder par des menaces et il va procéder par des provocations. La menace... Il va faire écrire par Talleyrand aux Anglais, prenez garde à ne pas forcer le premier consul à conquérir l'Europe. Forcer le premier consul à conquérir l'Europe et à reconstituer l'ancien empire des Gaules. À bon entendeur, salut, et les Anglais entendent fort bien. D'autre part, Il va faire publier dans son journal officiel, le Moniteur, le 30 janvier 1803, un rapport qu'il a demandé au général Sébastiani. Il avait envoyé ce général en Proche-Orient, à Constantinople, en Égypte aussi. Ce rapport était secret. Et il le fait publier dans le Moniteur, un rapport qui est rempli d'insultes pour l'Angleterre et d'indications de ce que l'on prépare contre elle militairement. C'est un coup de provocation inouï. Un ami à moi qui s'appelle Jean Massin, qui a fait un très bon almanach impérial, dit maladresse, incroyable maladresse de la part de Bonaparte. Pas du tout une maladresse. Calcul, provocation. De même qu'on va dire que ce sont les Anglais qui refusent d'évacuer Malte. Effectivement, ils n'évacuaient pas Malte parce que la France de Napoléon s'était emparée de tout ce que vous savez, tout ce que je vous ai dit. Enfin, vous avez vu les avancées des tentacules depuis 1802. Les Anglais disaient, tant que vous ne reviendrez pas sur vos positions du traité de Lunéville, nous garderons Malte. Du reste, Napoléon dira tranquillement à Bertrand, à Sainte-Hélène, Malte était un prétexte. En fait, c'est une affaire économique. Le 18 février, il va faire Napoléon, Bonaparte, il n'est encore que Bonaparte, il va faire à Whitworth, qui est l'ambassadeur d'Angleterre, une scène telle que le soir, rédigeant sa dépêche diplomatique, Whitworth dira, à son cabinet, au cabinet britannique, je m'excuse, je ne peux pas reproduire les termes de Chartier, dont s'est servi le premier consul, le papier diplomatique ne les souffre pas. Puis, le 13 mars, ça y est, de nouveau une insulte à Whitworth. Whitworth demande ses passeports, 13 mars 1803, c'est la rupture, c'est le commencement d'une guerre qui ne se finira pas, qui ne se terminera qu'avec la chute de Bonaparte, 11 ans de guerre. Et quel que soit le mépris que nous pouvons avoir pour un homme comme Talleyrand, nous sommes obligés de donner raison à Talleyrand quand il écrit. Désormais, ce n'est plus la France qui fait la guerre, c'est Napoléon qui fait la guerre aux moyens du peuple français. Rendez-vous compte des choses. Un spécialiste en hold-up géant s'est emparé de la France. Et c'est effectivement au moyen de la France qu'il va poursuivre sa carrière de meurtre et de pillage. Seulement le drame, c'est que ce caïd, les tueurs dont il dispose, c'est des conscrits français.